Aïe, Boker Tov, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on va finir le 9e chapitre du Tanya. Comme ça, la semaine prochaine, on entame le 10e chapitre. Donc, c'est un déjà beau parcours. Ouais, sur le. Si on en a encore loin, il y a 53 chapitres dans la première partie du Tanya. Donc, on a encore de quoi faire, Bezrat Hashem. Donc, le Shiur, il est dédicacé pour tous les Khayalim, pour tous les Khatoufim, tous ceux qui sont kidnappés. Et Bezrat Hashem, qu'Hashem y protège tous les juifs Be'eretz HaKodesh et tous les juifs qui sont Bagola également Bezrat Hashem. On va continuer Bezrat Hashem avec ce qu'on a parlé la semaine dernière. On a dit la semaine dernière tout le inyan du Koach HaMitaveh. Vous vous rappelez la force de l'envie qu'il y a chez l'homme. Et le Admor HaZaken il va continuer, il va dire Ukmo shekatuv be'etzraim shar nun perek gimel beshem azohar, au nom du Zohar, sharan efach liot tov gamur kmo yetzer tov mamash. Il dit le but, c'est pas seulement de dominer son yetzer hara, et là c'est une mimra très très forte, c'est liot tov gamur kmo yetzer tov mamash, c'est d'arriver à un matzav où notre yetzer hara devient du bon gamour, pas stam, du bon, comme notre Yetzer HaTov. Comme si le Admor HaZaken nous disait, tant que tu n'as pas pris ton Yetzer Hara et tu l'as mis de ton côté, eh ben, c'est comme si tu avais un avion avec un réacteur au lieu d'en avoir deux. C'est-à-dire, quand un homme, il est toujours que dans le combat contre son Yetzer Hara, sans penser à lui faire une prise de judo et prendre sa force en réalité pour le mettre de son côté à lui, alors il roule, il avance avec un réacteur, il avance avec sa Neshama. Mais il avance sans son corps. Donc, il ne peut pas avancer comme il faut. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que jusqu'à présent, on ne parle que d'un combat, que de comment détruire le mal qui est en nous. Et là, le Admor HaZaken dit, sache que le mal qui est en toi, il a cette capacité, cette possibilité de se transformer et de devenir un deuxième réacteur qui va te faire avancer encore plus vite dans la Avodat Hashem. C'est pour ça que dans la Shitat Rabbah, dans la Medot Rabbah, on ne prône pas pour la destruction des choses, mais pour la transformation des choses. Et ça, c'est quelque chose de Mahod Amok, de très très profond dans le nefesh de l'homme, dans l'âme de l'homme. Parce que, en fin de compte, c'est comme je vous ai raconté une fois, vous rappelez qu'il y a quelqu'un qui a emmené une boîte de tabac au Tzemar Tzedek. Il lui avait dit, voilà, ton grand-père, il a cassé la boîte. Il a dit, non, mon grand-père n'a pas cassé la boîte. C'est pas possible parce qu'il ne cassait rien. Ouais. Il transformait les choses. Il a juste dû séparer la petite vis, le petit fil qui retenait la boîte pour faire de ça un miroir. Pour regarder cette filine le matin. Donc une boîte de tabac, qui est quelque chose d'anodin, il l'a utilisé pour le mettre dans le matzav de la Kdusha. Pas seulement dans les choses parvées, c'est-à-dire qu'arriver à un matzav où tu prends tes forces, tes énergies, qui te motivent dans ta vie, qui te donnent de l'adrénaline pour aller du mauvais côté, tu les transformes, tu veux comme une raquevette, comme le train, hein, tu lui fais un petit changement d'aiguillage, exactement. Et après, tu avances deux fois plus vite. Maintenant, il te dit, pour arriver à ce matzav-là, il faut enlever les habits qui sont salis. C'est quoi les bgadim tsoim? On avait vu dans le passé que toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises paroles, toutes les mauvaises actions, elles nous font des taches sur nos habits. Maintenant, il te dit, il faut enlever tout ça pour pouvoir arriver à cette situation-là. Mais c'est quoi enlever les habits tsoim, les habits qui sont abîmés, qui sont salis. Alors, il te dit, c'est transformer son Koach HaMitaveh. Comme on avait parlé, Koach HaMitaveh, la force de l'envie. Vous savez que l'envie, on va voir ça plus tard. L'envie, c'est très, 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 très profond, ancré chez l'homme. Parce qu'on avait vu les sphirotes, on avait vu l'intellect, les midotes, les traits de caractère qui emmènent à l'action. Et au-dessus de ça, au-dessus du Seder Haishtal Shelut, on a ce qui s'appelle le Keter. D'accord? Dans le Keter, qui est donc ce qui s'appelle la couronne qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes, va se retrouver là-bas à l'intérieur, le Ratson, ouais, et le Ta'anouk, c'est le Etzem Anefesh, c'est la profondeur de l'âme. Le Ratson, donc, qui est au-dessus même des Sphirotes, comme le Ta'anouk, qui est au-dessus même des Sphirotes. Il n'y a pas plus haut que le Ta'anouk, c'est pour ça qu'il y a écrit que sur le Ta'anouk, on ne peut pas avoir de questions. Quand quelqu'un, c'est pas la fameuse question, pourquoi Dieu il a fait un monde, ouais. Il y a écrit « Dieu, il a fait un monde parce qu'il a eu envie. » Et le Admor HaZaken, il donnait toujours cette réponse. Sur une envie, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de réponse. Ouais. Si je dis « Pourquoi une femme enceinte, elle a envie maintenant là, d'une glace à la pistache ?» Elle va te dire « Je sais pas, j'ai envie. » Ouais. Elle peut expliquer son envie, elle peut pas expliquer son envie. Elle peut dire oui, c'est bon parce que j'aime la pistache. Mais pourquoi maintenant tu veux, tu as envie de manger ça? Ouais. Et ben elle pourra pas donner de réponse réelle. Il te dit c'est exactement pareil quand Dieu il a créé le monde. Il a dit de faire une dira betartonim, chez Nitava, il a eu une tava, il a eu une envie de faire cette chose-là. Ça sert à rien de se prendre la tête pourquoi et le pourquoi du comment. Alors oui, il y a des réponses parce que Dieu voulait donner du chesed, il voulait faire ça, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et là il nous dit donc en réalité le gadim atzoim, c'est l'imos bera. C'est quoi l'imos bera? On l'avait vu la semaine dernière. C'est quoi l'imos bera? C'est de détester le mal. C'est quoi détester le mal? Vous savez qu'il a écrit dans le rabbin une fois dans une sicha, il a dit, il a ramené la névoie de Ishayahu, un avis, la prophétie, où il dit « Bila amavet la netzar » Quand Mashiach va venir, ceux qui ont eu malheureusement l'occasion d'aller dans un cimetière, il a entendu cette phrase « Ve bila amavet la netzar » et la mort partira du monde et j'effacerai les larmes qu'il y a sur vos yeux. Et ça parle de quoi? Pourquoi on parle de mort bichlal? Pourquoi le Navi parle de ça? Parce qu'en réalité, la mort, il faut comprendre d'où elle est venue. Elle est venue à cause du Chet Et Adat. Le Rabbi l'explique qu'en réalité, il y a une chose qui s'appelle vraiment Chaim, la vie. Vatem Advikim Bashem Elokechem Kulechem Ayom. Pourquoi? Parce que quand tu t'attaches à Dieu, en réalité, tu t'attaches à la vie. À Kadosh Baruch Hu, en réalité, il représente Chaim, la vitalité de ce monde-là. Le contraire d'Akadosh Baruch Hu, ça représente la Touma. La Touma qui emmène automatiquement à la mort. Quand Mashiach va venir et qu'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler, on va tous s'attacher à la Kdusha, donc on va s'appeler vivant. Donc automatiquement, à ce moment-là, il n'y a plus de Touma, il n'y a plus de mort. Et c'est pour ça que le Navi, il nous parle de ça. C'est ça la situation. En fait, on a engendré une situation de Touma. Donc tout ce qui est tamé, on avait vu, ils prennent la force des clipotes. Et ces clipotes-là, elles te mènent. C'est pour ça qu'il est écrit que Rechaim Nikraim, Bechayem Nikraim Metim. Les Rechaim, dans leur vie, ils s'appellent mort. Ouais, pourquoi tu m'appelles mort? Il est vivant, je le vois, il est devant moi. Il vit. En réalité, comme il est dans une vie de Touma et qu'il puisse s'efforcer de la Touma, il ne puisse pas s'efforcer directement de Akadosh Baruch Hu, de la vie, automatiquement, il est appelé mort. Parce qu'il puisse sa vitalité et des chaloches clipotat meot. Maintenant, pourquoi on parle de tout ça? Parce qu'en réalité, on a vu que Ohave Hashem Sinoura. Et ça, c'est un klal chez un homme. Quand tu as un enfant, ton enfant que tu aimes, profondément, s'il y a quelqu'un qui lui fait du mal, s'il y a quelqu'un qui est contre lui, automatiquement, tu vas le détester. Ouais. Si tu apprends que quelqu'un, il est sur les côtes de ton fils et lui fait des souffrances, que ce soit de la famille ou que ce soit des amis, automatiquement, tu vas te mettre dans un matzav où tu détestes la personne qui fait... Et c'est exactement pareil ce qu'Hachem nous dit, en fait. C'est pour ça que vous savez que dans la Sfirata Omer, on va bientôt y arriver, Bezrat Hachem, il y a ce qui s'appelle Gvura Shebechesed. Dans le spirituel, dans le côté tov, dans le bon côté, Gvura Shebechesed, c'est quoi?
La rigueur de la bonté.
La rigueur de la bonté. C'est quoi la rigueur de la bonté? En fait, j'aime tellement Dieu, parce que Chesed, on sait que c'est l'amour, Gvura, on sait que c'est la rigueur, j'aime tellement Dieu, ouais, que je déteste tout ce qui va à l'encontre de Dieu. Ça, c'est ce qui s'appelle le Gvura Shebechesed. En fait, pourquoi on fait des fautes? Pourquoi on fait des bêtises? Pourquoi on est dans un Koach Amitavé, on est dans une force d'envie qui va à l'encontre de Dieu? Parce qu'on n'a pas encore dévoilé réellement l'amour qu'on a envers Dieu. Quand tu aimes, quand tu es love, automatiquement tu t'éloignes de tout ce qui est contradictoire. Une fois, le Rabbi l'a expliqué aussi, quelle est la différence entre ce qui s'appelle la Torah Tamoussar et la Torah Tachassidut? La Torah Tamoussar, elle prône pour ce qui s'appelle le Sour Mera, ouais, de tout le temps s'éloigner du mal et parler des choses qui sont négatives par rapport à la Torah et à ce que ça peut t'engendrer. Et la Chassidut, elle prône pour ce qui s'appelle Asetov. Je ne suis pas en train de donner des notes, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui n'est pas roulé. Je suis juste en train d'expliquer les deux méthodes. Dans la méthode de Asetov, le Rabbi l'explique automatiquement, comme on avait dit aussi la semaine dernière, que quand tu es Asouk, pourquoi on prône ça? Parce que quand tu es Asouk avec le Tov, quand tu es Asouk à aimer Dieu et à faire plus de bien dans ta vie, automatiquement tu n'auras plus le temps et tu n'auras plus envie de faire le mal. Et c'est deux façons d'arriver à la Avodat Hashem. Et là maintenant, on te dit comme ça. On te pose une question. Ok, super. Tu veux que j'arrive à la darga de l'imos bera. C'est quoi l'imos bera? C'est de détester le mal. Mais je déteste pas faire de la shonara. Ouais. Je sais que c'est pas bien, mais je déteste pas. Quand on parle l'imos, c'est plus que détester, parce que c'est pas la vraie traduction. L'imos, c'est dégoûté. C'est-à-dire, est-ce que tu peux arriver à un matzav où une fois, d'ailleurs, on raconte sur le Magid de Meserich qu'il y a une femme, Patsanoua, qui a tout fait pour passer devant lui, parce qu'elle voyait que c'était la seule personne qui ne la regardait pas, une femme qui se baladait dans le village. Et ça l'a perturbée de voir que le Magid de Meserich, il ne la calculait pas. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a débarqué un jour, comme ça, dans son bureau, elle est rentrée. Donc, le Magid, il l'a vu. Et tout de suite, il a eu un rejet. Ouais. Tout de suite, il a eu un rejet. Et ils lui ont posé la question. Ok, d'accord, tu tournes les yeux, tu ne regardes pas. Il a dit, dès que je l'ai vu, en réalité, j'ai vu la Tum'a qui est autour d'elle. Tout de suite, il a rendu. Et ça, c'est ce qui s'appelle l'Imos Bera. Maintenant, le Admor Arkan, il est en train de te parler de l'Imos Bera. Mais nous, on n'est pas Moïse Bera. Quand tu vas me dire, à chaque fois que je vais faire de la Shonara, à chaque fois quelque chose qui est contradictoire à Dieu, je vais commencer à aller aux toilettes et je vais rendre. C'est pas possible. C'est pas notre Darga. Alors, pourquoi maintenant, en réalité, on parle de ça? Et ça, c'est une Nekuda extraordinaire. Le Rabbi, il dit comme ça. Qu'en réalité, c'est vrai qu'on n'est pas comme les Tzadikim. On va pas être dans un matzav où tout ce qu'on va faire tout le temps va arriver à cette situation-là où je suis Moes Bera, où je suis dégoûté par le mal, là, ça me répugne, j'entends une musique qui n'est pas de sa noix, j'ai envie de... Non, c'est sûr que c'est pas... On n'est pas à cette adresse-là. Mais malgré tout, comme on a dit, c'est le Sefer HaBenoni, donc c'est censé me parler. Donc si tu me parles maintenant du Sefer HaBenoni, en quoi ça me parle? Et là, le Rabbi, il dit un conseil extraordinaire. Il dit en fait une chose extraordinaire. Il dit à partir du moment où le Admour Hazaken, il a parlé de ça, il a ouvert les portes à chacun d'entre nous d'arriver à cette darga-là. Alors c'est vrai que la différence entre le tzaddik et nous, c'est que le tzaddik, lui, chez lui, c'est continu. C'est tout le temps comme ça. Chez le Benoni, ou même le Rabbi dit dans sa sikha, même moins que Benoni, même si tu es en fait dans la définition de Racha, et ben même toi, tu peux arriver à cette darga-là de l'Imos Bera. Alors ça ne sera pas continu comme on a dit, mais il va y avoir des moments. Des fois, il y a des moments où tu es tellement attaché à la Gdusha, par exemple, que ce soit Yom Kippour, que ce soit pendant les Slichot, que ce soit pendant Rosh Hashanah, que ce soit quand tu rencontres un grand tzaddik, à ce moment-là, si on te propose de faire une Avera, ça te dégoûte. Il y a des fois, c'est des Zmanim, des fois, c'est des endroits qui t'engendrent ça. Étant donné que chez Akadosh Baruch Hu, tout est Nitzri, tout est éternel, donc même les seules fois où tu es arrivé à ce niveau-là, c'est considéré comme, déjà, pour toi, pour un tzaddik, ce n'est pas considéré comme Nitzri. Ton travail. Mais pour toi, à ton niveau, c'est considéré comme Nitzri. C'est-à-dire que tu arrives à 120 ans, on te dit « Kol HaKavod, t'as été Moïse Bera. » Moïse Bera. Moi, j'ai été dégoûté par le mal. Oui, regarde, à tel endroit, à tel moment, à tel instant. Et chacun jour. D'ailleurs, il y a des gens où si tu leur poses un plat, chacun avec son niveau, tu leur poses un plat pas cachère, ouais, ça se trouve, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là? Un dégoût. Pourquoi ça te dégoûte? Regarde, tout le restaurant, il est en train de manger. Pourquoi toi, ça te dégoûte? Ça a l'air bon, même à la limite, il y a une bonne heure. Et toi, ça te donne envie de... Et si Chas et Shalom t'a mis dans ta bouche et qu'on t'a annoncé, hey, attention, ça, c'est pas cacher, qu'est-ce que tu as envie de faire tout de suite? C'est d'aller aux toilettes et de vomir. Donc toi, par exemple, dans le nian de la cacheroute, t'es arrivé à ce niveau-là de tzaddik. Alors, c'est pas toute ton entité qui est comme ça. Mais oui, à certains endroits, t'es comme ça. Donc, c'est pour ça que l'Admor Hazaken, il nous exige pour enlever les habits qu'on a mis sur nous, qui nous ont salis, d'être Moïs Bera. Et si tu fais attention, oui, tu as des endroits où tu es Moïs Bera. Donc, c'est un grand chidouche, c'est quelque chose d'extraordinaire de prendre même le mal et de le rendre bon pour avoir deux réacteurs, comme on vient de dire. Et plus de ça, enlever ses habits, de se comporter dans certains moments et certains endroits comme un tzaddik, c'est ce qui nous permet de faire la transformation, ouais, transformers. « V'chen char kol amidot shebalev shan afe ira ve'ava iyu l'Hashem levada » Les vado. Vechol koach adibur shebape va marchava shebemoach yu memulaim min alivusha marchava va dibur shenifa shelokit levada shemarchevet Hashem vetorato liot sichato kol yom lo pasik poumem girsa. Si vous vous rappelez, au début du Tanya, on avait parlé de Rabba qui avait un safek s'il était Benoni ou pas, et qui avait écrit sur lui lo pasik poumem girsa. Il ne s'arrêtait pas une seconde de parler de Torah. Et là, il te dit exactement, c'est la volonté de Taneshama d'arriver à cette dargala, ce niveau-là, que tes pensées soient que pour Hachem, que tes sentiments soient que pour Hachem, et que tes paroles soient aussi que pour Hachem, ainsi que tes actions. Donc, tu peux arriver à ce niveau-là. Alors, encore une fois, on va dire quoi? Moi, je suis comme ça tous les jours. Non, mais il y a des moments, il y a certains instants où tu es comme ça. Maintenant, il faut savoir que le Rabbi, il a aussi une méthode, c'est que tout ce qu'on apprend, il y a un enseignement. Ça, c'est une situation de la Hashgacha Pratit. Le Rabbi, tu dis, sache une chose, c'est que tout ce que tu as entendu sur les patriarches, tout ce que tu as entendu sur Moshe Rabbeinu, tout ce que tu as entendu sur les tzadikim de la Torah, c'est que ce qui te concerne. Ce qui ne te concerne pas, les niveaux que tu ne pourras jamais atteindre, comme l'iceberg, ouais, on voit que le haut de l'iceberg, mais en dessous, la grande partie, elle se cache. Les choses que tu ne peux pas atteindre, même comme on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, ces niveaux-là qui ne te concernent pas, on ne te les a pas racontés. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit, tout ce qui est venu à tes oreilles, par une histoire dans la Gemara, par une histoire dans le Zohar, par une histoire dans le Bichlal, dans le Tanakh, c'est qu'automatiquement, à un certain niveau, tu peux arriver à ça. Tu peux toucher, tu peux atteindre cette Nekuda-là. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que des fois, tu vois des Sipurim sur Abraham, des Sipurim sur Moshe, tu dis, bon, ok, c'est une belle histoire, mais moi, j'ai rien à voir avec ça. Il dit, non, il n'y a pas rien à voir. Si Dieu te l'a dévoilé, c'est que c'est un enseignement pour ta vie que tu peux accomplir. Alors, à ton niveau, tu peux accomplir. Mais c'est Shayach Elecha, ça encaisse avec toi. Vous savez, il y a une histoire sur le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab qui était le cinquième Rabbi de Lubavitch, que quand il était petit, à l'âge de 4-5 ans, il est rentré chez le Tzemar Tzedek et il s'est mis à pleurer. Et il lui a dit, pourquoi tu pleures? Il lui a dit, parce que j'ai vu dans la paracha que Avraham Avinu, il s'est dévoilé. Hachem, il s'est dévoilé à Avraham Avinu. Ouais. Bon, il lui donne l'explication. Un homme à son âge qui fait la Brit Mila, il mérite que Dieu se dévoile à lui. Et le Rabbi pose une question, il dit, attends deux secondes. C'est quoi cette question? Cette histoire, elle me sert à quoi? Super, le Rabbi Rachab, à 4 ans, il pleure parce que Dieu se dévoile pas à lui. Bon, ben, c'est le Rabbi Rachab. Les enfants aujourd'hui de 4-5 ans, ils pleurent juste s'ils ont perdu leur Playmobil, ou ils ont perdu leur Totote, ou ils ont perdu leur Lange. Ils pleurent pas si Dieu s'est dévoilé à lui. Alors, pourquoi tu me racontes cette histoire? Le Rabbi dit non, parce qu'à partir du moment où le Rabbi Rachab, il a pleuré à l'âge de 4-5 ans, de ne pas voir Dieu, il a ouvert un conduit dans le monde. Ce conduit-là apporte la capacité et la possibilité à tous les enfants, déjà de l'âge de 4-5 ans, de pouvoir pleurer parce qu'ils désirent voir Akadosh Baruch Hu. Ouais. Et ça, il dit jusqu'au Rabbi Rachab, le Rambam, il te dit, pour faire venir un enfant dans la Torah et les mitzvot, il faut lui donner des friandises. Bon, à l'époque, c'était des noisettes, mais il faut lui donner des friandises, des bonbons, des cadeaux, et c'est comme ça qu'il vient à la synagogue. Et bien, sache une chose, que ton enfant, bien sûr que tu dois lui donner les friandises pour le faire venir, mais sache une chose, c'est qu'il a un niveau beaucoup plus profond que ça. Il peut vouloir, déjà à l'âge de 4-5 ans, vouloir venir à la synagogue parce qu'il se sent bien, parce qu'il voit un Sefer Torah, parce qu'il entend la lecture de la Torah, parce qu'il entend les mizmorim de la Tfila, et ça a été débloqué grâce à la avoda du Rabbi Rachab à l'âge de 4-5 ans. Pourquoi le Rabbi nous explique ça? Pour te dire que toutes les histoires que tu entends dans la Torah ou sur les grandes tzadikim de la génération, elles ont apporté quelque chose au béni Israël qui nous permettent d'arriver à ce niveau-là. Donc quand le Admor HaZaken, il te parle de tous ces niveaux-là qui nous paraissent complètement loin de nous, si le Admor HaZaken, il a mis ça sur un livre et ça arrivait à tes oreilles, c'est que oui, tu as accès à toutes ces perceptions. Ok? Donc ça veut dire qu'on n'est pas si bas que ça. Enfin, on a un gros potentiel. Vekoach hamasish bedayav ushach ramach evarav iu bemaseh amitzvot levad shiu levush hashlishi shel nefesh elokit ach hanefesh habamit shem haklipa retzona lehefech mamash. Et là, on rentre dans la fin du Perek. Et il dit, par contre, sache une chose, c'est que la nefesh habamit, l'âme animale, sa volonté, c'est tout le contraire de tout ce qu'on vient de dire depuis le début. Et il ne faut pas se tromper. On a toujours l'impression que le Yetzer Hara veut nous faire tomber dans une faute. Non. Le Yetzer Hara, il veut beaucoup plus que ça. Il veut que ton corps, ouais, n'ait aucune case qui soit prise par la Nefesh Elokit. C'est-à-dire que des fois, on se dit, bon, il y a le Yetzer Hara, il est là, il me regarde, il veut me faire une petite balayette, il veut me faire tomber dans une petite avéra. Non, non, non. Lui, c'est beaucoup plus profond. Lui, il veut tout. Il veut pas genre que tes yeux, peut-être tu fais Shmirat Hanaim, mais bon, je t'ai juste fait tomber dans Shmirat HaLashon, je t'ai juste fait parler un petit peu de Lashon Hara, et il est content, il dit, ouais, bah, au Hachem, je l'ai fait tomber. Non, lui, il veut les yeux, il veut les oreilles, il veut la bouche, il veut le corps, il veut les membres, il veut les jambes, il veut tes bras, il veut tes mains, il veut prendre le contrôle de tout ça. Donc le combat avec le Yetzer Hara, il est pas seulement sur une Avera, oui ou non, il est qui va prendre la Shlita, comme on a dit, qui va prendre le contrôle entier de tes sentiments, de tes perception, de ta chorma bin avadat, de ta façon de voir les choses. Quelles lunettes tu vas mettre pour regarder le monde? C'est ça qu'il veut. Maintenant, il te dit, ok, super, c'est super sympa, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça? Letovat Adam shit gaber alea venatzrena. Tout ça, c'est pour la bonté de l'homme, pour qu'il surmonte ses épreuves et qui le gagne. Maintenant, regardez. Comme on a dit hier, tu étais là hier, on te dit que Bechol Dor Vador, Chayav Adam Lirot Tatsmo, Kilou Yatsa, Mimitsraim. Dans chaque génération, on doit se considérer comme si on est sorti d'Égypte. Dans le Pshat, c'est pourquoi ? Pour te dire que si, en réalité, tu n'étais pas sorti d'Égypte il y a 3000 ans, eh ben, tu serais aujourd'hui toujours en Égypte. Donc considère-toi que même ta génération, elle est sortie d'Égypte. Ça, c'est le Pshat. L'Admon Razaken, il va rajouter, c'est très manien parce qu'il prend une phrase de la Gemara et il va un peu la modifier. Et il va dire Ubechol Yom Vayom. Chaque jour, tu te dois de te voir sorti d'Égypte. Ad Kedekar qui a écrit quoi ? Que tu fais le Shema Israël. Maintenant, le Shema Israël, la troisième partie du Shema Israël, elle parle de Yetziat Mitzrayim. Les Tzitzit et Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Il n'y a rien à voir. Si on regarde dans la Torah le Shema Israël et le passage de Yetziat Mitzrayim, ça n'a rien à voir. C'est dans deux endroits différents. Pourquoi les Chachamim, ils ont mis la Yetziat Mitzrayim, Balelot, le soir et le matin dans ton Shema Israël ? Parce qu'ils ont voulu t'enseigner en réalité que tous les jours tu sors de ton Égypte. Et à quel moment tu sors de ton Égypte ? Quand tu fais Shema Israël, quand tu arrives à la perception donc de Ve'ahavta, quand tu arrives à la perception de Torah Mitzvot, c'est le moyen de sortir de ton Égypte personnelle tous les jours. Et on le voit, à chaque fois qu'on ne se met pas dans un matzav, dans une situation où on remplit notre Neshama, on a l'impression d'être enfermé, d'être emprisonné par Internet, emprisonné par le téléphone, emprisonné par les Hadashot, par les infos. Et au fond, nous, on se sent pas bien, on s'est rentré nous-mêmes en Égypte. Et c'est pour ça que la Torah te dit d'abord, fais Shema Israël. Rappelle-toi le Kabbalat Ol Mitzvot. Kabbalat Ol Malchut. Une fois que tu as pris ça sur toi, hein, tu as la capacité de sortir d'Égypte. Maintenant, le rabbi pose une question sur ça. C'est super sympa ce que tu me racontes. Mais en fin de compte, la Neshama qui était libre, qui était en haut, c'est toi qui me l'as fait descendre dans un corps qui s'appelle l'Égypte et qui fait que la bloquer et que l'empêcher de s'évader, ouais, d'évoluer. Donc d'un côté, tu me demandes de sortir d'Égypte quand toi, tu m'as foutu en Égypte. Et pas seulement Khatpami, le jour où t'es né. Tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours, on reprend ta Neshama, on la refait descendre dans le corps. Le corps, il pense qu'à lui. Il est anochi, ouais, il est égoïste. Il pense qu'à son confort. La Torah, elle te demande de penser à faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Ton corps veut se faire plaisir à lui-même. Et tous les jours, on te remet la Neshama dans ça. On te met en Égypte, on te demande de sortir d'Égypte. Pourquoi Dieu, il a fait ça ? Ouais.
Redonner la victoire.
Ah. Vous savez, en Tafshin Khaftet, je crois que c'est 1969, peut-être tu vas me corriger, je crois que c'est la première navette spatiale qui était...
Gagarine.
Hein ? Ouais, qui a été envoyée avec un homme. Et le rabbi, dit, il y avait... Et c'est la même semaine, le rabbi, il a fait un Nidva Adout, un Farmagan, et il dit que les ingénieurs, ils avaient un grand dilemme. C'est quoi le dilemme ? C'est que pour pouvoir emmener cette Khalalit, cette fusée spatiale dans le ciel... Il fallait beaucoup, beaucoup de délec, beaucoup d'essence. Maintenant, le méchal, comment on dit ça, le méchal en...
Le réservoir,
il était aussi également très lourd pour pouvoir prendre autant d'essence. Donc, en fait, on avait un dilemme. D'un côté, on veut emmener la fusée très haut. D'un côté, le méchal, le réservoir plus l'essence, il pesait tellement lourd qu'on avait un doute. Est-ce que la fusée, elle va réussir à décoller ou à aller très loin ? Et donc, le rabbi, il dit quoi ? Il dit qu'en fin de compte, ils sont arrivés à la conclusion qu'à un certain niveau, on n'a plus besoin du Mechal Delek. Donc, la fusée détache le réservoir qui pèse lui-même très lourd. Et après, elle peut continuer à faire son ascension une fois qu'elle a été propulsée toute seule et arrivée dans l'espace. Et le rabbi, étant donné que tout est Hashgacha Pratit, tout est providence divine, donc on doit apprendre quelque chose de là, il dit c'est exactement la même chose avec l'âme animale et la Neshama. Akadosh Baruch Hu, il veut que la Neshama se propulse et elle aille très très haut. Pour ça, elle a besoin de Delek. Ouais, pour ça, elle a besoin d'un Mechal, elle a besoin d'un réservoir. Il lui colle un Yetzerara qui va l'empêcher, mais qui va lui donner aussi la possibilité de s'élever. Au bout d'un moment, quand tu arrives à une certaine ascension, là on te dit tu peux détacher le réservoir et tu vas continuer à avancer tout seul. Et le rabbi, il donne un exemple par rapport à l'éducation. Il dit dans le spirituel, par exemple, un homme au début, on lui parle beaucoup de son Yetzerara. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Le Yetzerara, c'est comme un chien, donc il a besoin de coups de bâton, il a besoin qu'on lui parle dans son langage. Donc on va des fois le rapprocher à la Torah avec des menaces. Ouais. On va dire attention, celui qui ne fait pas ça, il reçoit ça. Celui qui veut la parnassa, il est obligé de faire ci. Et ça, la santé, la longue vie, roulez. Donc tu es en train de parler à ton corps, tu dis baba, tu vas prendre des claques, tu vas prendre des coups. Mais le truc, il dit oh là, mais ça ne m'intéresse pas moi de prendre des coups. Donc au début, qui va t'aider à te propulser en réalité, c'est le onesh, c'est la punition, c'est la menace un petit peu de ce qui a écrit dans la Torah, bacharta bachaim, celui qui c'est le contraire de la vie. Il dit, et bassof, il y a un moment où il faut que tu te sépares du Mechal Delek. Il y a un moment où il faut que tu comprennes que ton ascension, elle vient pas pour se battre qu'avec le Yetzera, comme on a dit, mais tu arrives à une perception de pourquoi je vais vers Akadosh Baruch Hu, parce que je dois aller plus haut, je dois aller plus loin. Ça, c'est le pourquoi Hachem nous a collé un nefesh abahamit, une âme animale en bas pour pouvoir nous emmener à une ascension encore plus grande que d'où vient la Neshama, exactement. Maintenant, il continue, il te dit « Kemashal azona shebezohar akadosh ». C'est quoi le « Kemashal azona bezohar akadosh » ? Le Zohar akadosh, il va parler d'une prostituée. De quelle prostituée il va parler ? En fait, il a une question dans le Zohar, Tachles. Comment c'est possible que Dieu, il va créer un malach, un ange. Donc, si c'est Dieu qui l'a créé, il est censé faire du bien. Et ce même ange-là, c'est lui qui te fait tomber. C'est pas possible. Tu crées pas quelque chose qui va à ton encontre, même dans ta société. Tu crées pas quelque chose qui va te faire, qui va te bousiller la société. Ouais, même un mauvais élément, qu'est-ce que tu fais ? Tu l'enlèves, de peur que, chas shalom, ça se dégrade. Et là, Hachem, il crée un malach. Et la mission de ce malach-là, c'est d'aller contre Dieu. C'est complètement... Ouais ? C'est du génie. Peut-être c'est ce qu'ils sont en train de faire avec les robots. Ouais, on ne sait pas ce qui va se passer avec les robots. Hein ? Ouais, alors, il explique comme ça, il donne le machal de la zona. C'est quoi le machal de la zona ? C'est qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu Kivyachol, c'est comme le roi. Le roi, il voulait voir si son fils, il a bien été éduqué et il se comporte comme il faut dans les mœurs du palais, dans les mœurs de l'éducation royale. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il paye une prostituée. Il dit, je veux voir si... t'arrives à faire tomber mon fils ou pas. Donc la prostituée, elle vient, elle essaye. Et le plus grand nachat, le plus grand plaisir au roi, à Kadosh Baruch Hu, c'est quand il voit que le fils, il dit, ça c'est pas pour moi, sois gentil, il y a des barres à droite, à gauche. Moi je suis pas de ce rang-là, moi je suis pas de cette catégorie-là. Là, le Meler, il a la plus grande fierté qui puisse arriver à l'intérieur. On souhaite à tous ceux qui n'ont pas d'enfants d'avoir des enfants. Mais Bémet, je pense que tout celui qui a un enfant, le jour où son moré, il l'appelle et lui dit, votre fils, je vais vous dire, Kol Akavod, il a un comportement exemplaire, il est extraordinaire, c'est un amour, c'est une très très bonne neshama. Ouais. Le même moment qu'il te dit ça, le moré, continuez comme ça. Le même moment, tu as envie d'aller chercher ton fils à l'école, de l'emmener dans un magasin et de lui acheter ce qu'il veut. Ou quand il sort de l'école, tu le prends dans les bras, il t'emmène son petit pétec du moré, il dira ah, « Papa, ce que le moré, il m'a écrit ?» Je sais, il m'a appelé. D'ailleurs, tu veux que je te fasse un cadeau ? Pourquoi ? Parce que tu as tellement de plaisir à ce moment-là que ton fils, il est dans le droit chemin, que tu réveilles chez toi l'envie de donner encore plus. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait avec nous. Maintenant, le Admour Hazaken, il pose une autre question, il dit 2 secondes. Malgré tout, la zona qu'on parle dans le Zohar, la prostituée qu'on parle dans le Zohar, elle fait... t'as l'impression que dans ce monde-là, le Yetzer Hara, il a un petit peu oublié son rôle. Est-ce que Bémet, le Yetzer Hara, aujourd'hui, quand il vient te voir, qu'on appelle rat, qu'on appelle mauvais, ouais, qu'on appelle Yetzer Hara, qu'on appelle Satan, le Satan qui te fait aller à droite, à gauche, est-ce que Bémet, aujourd'hui, le Yetzer Hara en bas, il pense à la mission qu'il a reçue là-haut de juste essayer pour voir si tu vas tomber ou pas ? Où il veut vraiment que tu fasses du mal. Adkelkar qui a écrit que le Yetzer Hara a regardé le Beth Amikdash, ouais, et par jalousie, il a emmené à la destruction du Beth Amikdash. Alors on dit, attends 2 secondes, je comprends pas. À la base, t'es un malard de Dieu. T'es censé travailler pour Dieu. Et c'est toi qui engendre la destruction du Beth Amikdash. T'as pété un câble. Alors le Admor Hazaken dit, en réalité, pour comprendre le Machal qui a écrit dans le Zohar, c'est comme une prostituée qui a reçu la mission, mais elle pouvait pas faire la mission, donc elle a dit à sa copine, écoute, moi je peux pas y aller, donc elle a dit, vas-y toi. Et cette copine-là, elle a dit, écoute-moi, moi aussi, je peux pas y aller ce soir-là. Elle envoie une troisième copine. Bah, la troisième copine, en fait, quand elle arrive là-bas, elle a oublié que la volonté du roi, c'est de pas faire tomber. Elle veut essayer vraiment de le faire tomber. Ouais. Et il dit, en réalité, Bémet, dans le Shoresh de la Nefesh HaBahamit, au début du processus, oui, la volonté du Satan, la volonté du Yetzer Hara, la volonté du Malach HaMavet, c'est que tu sois mitgaber, que tu le gagnes. Au fond. Après, quand il arrive en bas, hein, même lui, il oublie. Même lui, il oublie que sa mission première, c'était juste de te tenter pour voir est-ce que tu allais résister ou pas. Alors il te dit le Admonzaken, mais malgré tout, étant donné que dans son Shoresh, dans sa source, ouais, c'est de là où elle vient, c'est qu'il est en train de te dire que Behemet, la volonté profonde de ton Yetzerara, c'est que quand tu as envie, par exemple, de faire de la Shonara, tu te retiens, même lui, tu le fais kiffer. Parce que même lui, en fait, il se rappelle d'où il est venu et pourquoi, en fait, il est là en bas. Ça, c'est la fin du Perek Tet. Je vais juste finir avec... on a encore... c'est bon, quelques minutes? Ouais. Juste finir avec une petite histoire. Aujourd'hui, c'est Chaf et Adar. Chaf et Adar, c'est le jour de la naissance de la rabbanite Chaya Mouchka. Ouais. La femme du rabbi de Lubavitch. Juste raconter quelques inanimes qu'on comprenne la grandeur de cette femme. Vous savez que le rabbi, à partir du moment où il est devenu rabbi, et Bichlal, quand il est arrivé à New York, il n'a jamais été en vacances. Il n'a jamais pris de vacances. D'accord? Jamais. Il n'est jamais sorti du quartier. Juste une fois, il est parti voir un camp, ouais, une colonie de vacances que les Chabad avaient organisé. Il était parti voir là-bas les enfants. Mais il n'est jamais parti en vacances. Et étant donné que c'est Naoug, c'est Mekoubal, chez tout l'Admorim de toutes les Chassidouyot, que de temps en temps, ils partent en vacances. Bien sûr que les vacances à eux, ce n'est pas les vacances à nous en maillot de bain et tout ça. C'est des vacances dans la montagne pour faire le vide, pour prendre des forces, pour se reposer, pour réfléchir sur la grandeur de Dieu. Le rabbi, il prend la rabbanit Chaya Mouchka. Regardez, il faut avoir vraiment une femme extraordinaire. Et il monte dans les escaliers avec elle. Il lui demande de prendre une chaise. Lui aussi, il prend une chaise. Et les deux, ils montent dans leur maison. Ils arrivent jusqu'au toit. La rabbanite, elle raconte que... je ne comprends pas. Ouais. Ils s'assoient sur le toit, les deux avec la chaise, 5 minutes, et ils regardent le ciel, ils regardent les arbres, les oiseaux. Et la rabbinite dit, tout va bien, ouais. Le rabbi dit, on a pris nos vacances, on s'est rendu quitte, ouais, de nos vacances. Maintenant, on doit redescendre pour aider le Ham Israël, ouais. Donc, elle redescend et elle explique qu'en réalité, le rabbi n'a jamais pris de vacances pour être justement... à la demande des Bnei Israël, à n'importe quel moment où ils veulent, où ils ont besoin. Et tu te rends compte que la femme, s'il n'y a pas la femme derrière pour ça, ce n'est pas possible d'arriver à cette dergala. Hâte qu'il déclare que le rabbi, quand sa femme elle est partie de ce monde-là, il est parti demander au Beit Din de Kronite, le Beit Din Rabbani, est-ce qu'il peut continuer à être rabbi? Rabbi, ouais. Il a déjà presque 90 ans. Et il demande, déjà ça fait 40 ans qu'il est rabbi, qu'il dirige tout le Ham Israël. Il a des mosdotes, des institutions dans le monde entier. Et il demande au rabbanim de Kronite, est-ce qu'il peut continuer à être rabbi? Et les dayanim, ils sont complètement stupéfaits. D'où vient cette question? Il dit, étant donné que je suis devenu rabbi grâce à ma femme, et que ma femme maintenant, il y a eu la Istalkout, elle est partie de ce monde, est-ce que j'ai le droit toujours de rester dans ce statut-là, hein, de rabbi? Vous voyez l'importance de sa femme, la Rebensen, aux yeux du rabbi. C'est, je pense, une phrase très forte et très puissante du kécher qu'il y avait entre le rabbi et sa femme. Et pour finir avec une petite histoire, il y avait une femme, le Rav Groner, une fois, il a raconté, une femme de maison qui travaillait là-bas. Et une fois pendant les Shiva, juste après les Shiva, elle s'est mise à pleurer dans la cuisine. Et les Chabad là-bas qui étaient là-bas, le Rav Groner lui dit... Vous pleurez parce qu'elle vous manque. Elle dit non, bevadai que la rabbanite me manque. Mais je vais vous raconter ce qui se passait ici tous les jours. Le rabbi revenait et on sentait sur lui un fardeau, quelque chose de très pesant, très lourd sur lui. Imaginez-vous le nombre de lettres qui affluaient. Je crois, si je ne me trompe pas, d'une memoutsa de 600 lettres par jour. Ouais. Donc... Nous, on n'est pas capable de répondre à 600 WhatsApp alors que c'est instantané. Par jour, on a envie de jeter le téléphone par la fenêtre. C'est 600 lettres que tu réécris par des lettres. Ouais. Et ces 600 lettres, c'est des parachutes à Shavua. Ouais, que les gens ils racontent toute leur vie. Donc, hein? Ouais, c'est une des grandes questions. C'est une des grandes questions. Ouais. On parlera de ça à Bezrat Hashem une autre fois parce que je vois que Bezrat Hashem, on doit finir. Aval, elle dit il avait un fardeau énorme sur lui. Mais il avait tous les jours un quart d'heure où il buvait le thé avec sa femme. Et quand il buvait le thé avec sa femme, je sentais que tout le fardeau qu'il y avait sur lui, il tombait à terre. Et je retrouvais sur son visage un apaisement. elle a dit, la femme de ménage, elle a dit au Rav Groner, elle a dit, je pleure, bien sûr pour elle, mais je pleure surtout pour lui. Parce que maintenant, même ça, il l'aura plus. Ouais. Ça, c'était pour finir avec une petite histoire de la force d'un homme et d'une femme qui sont liés un à un. Atke Descartes va mettre que quand il a reçu une lettre de Tantrumim du Rav Gabriel Zeiner, si je ne me trompe pas, où le rabbi, où là-bas, il lui écrivait des Nihumim, ouais, des condoléances. Et le rabbi, lui dit là-bas, une phrase très forte, il lui dit, tout le monde m'envoie des lettres de condoléances, mais tout le monde a oublié la Gemara dans Maseret Sanhedrin qui dit, ouais, « Akol bekol yesh tmura » tout un changement, un remplacement, « Chutz ken mi eshet neurim » la femme de son enfance, ouais. Sa première femme, la femme de son enfance, la femme qu'il a connue, aura été en premier. « La kol yesh tmura » tout peut tout remplacer, sauf cela. Et le rabbi, il a voulu lui dire que combien même on fait des condoléances, cette douleur-là d'avoir perdu sa femme, c'était quelque chose de très pesant, très dur. Mais il y a aussi dans le moment des Nihumim, un grand rav qui est venu le voir et qui lui a dit, qui a écrit Yom Kippour. Yom Kippour, on sait que le Kohen, il devait avoir une femme en réserve. Une femme en réserve, que Chas Veshalom Chiper Beado Bead Beto. Que si Chas Veshalom, parce que pour pouvoir pardonner les bénis Israël et faire le travail de Kohen Gadol, il était obligé d'être marié. Si Chas Veshalom, la femme du Kohen, elle meurt pendant Yom Kippour, tout de suite il a une femme, veut rouler. Et lui, il pose la question, il y a un truc que je ne comprends pas. Comment c'est possible? Ok, d'accord, il perd sa femme, il a une en réserve, mais la douleur, ouais, la difficulté de la situation, elle ne change pas. Ok, tu lui as casé une autre femme, mais pour l'instant, il a perdu sa femme, et c'est Yom Kippour. Comment il va continuer son service de Dieu? Donc là, il a répondu, il a dit, c'est obligé de dire que Dieu donne au Kohen Gadol des forces, que même Chas Veshalom, si à Yom Kippour il arrive une chose pareille, il a toujours cette force-là pour pouvoir continuer. Et le fait qu'on lui met une femme en plus, il peut se consoler plus rapidement et continuer son service de Dieu. Et là, le rabbi lui ramène encore une fois cette Gemara-là, du Maseret Sanhedrin, tout sauf Eshet Neurim, à une Tzmura, Aval Aniloid Vakeh Achitrem, mais je ne vais pas commencer à rentrer en pile-poule avec vous. Voilà un écouda de comment on doit regarder sa femme et comment la femme doit aider son mari. Yom Tov Lekulam.